Chers frères et sœurs, les généraux de l'état-major de l'Axe dans les années 40, qui supervisaient le Feldmarschall Erwin Rommel, ne devaient pas être très familiers des textes bibliques. S'ils avaient lu ces textes, ils auraient certainement porté une attention plus grande aux alertes formulées par Rommel au sujet d'un certain Leclerc. Mais, évidemment, que pouvait-il sortir de bon de Fayal-Arjo, un petit village tchadien de rien du tout? Que pouvait-il sortir de bon des forces françaises libres et d'une poignée de vauriens menés par un illustre inconnu qui ne portait même pas son nom? La Bible nous parle très régulièrement d'humilité. Et la spiritualité chrétienne est avant toute chose un chemin d'humilité. Cette humilité est un aspect de la vie que nul ne devrait sous-estimer précisément. L'humilité a évité bien des déconvenues à des personnes en charge de responsabilité. Et tout au contraire, l'orgueil a posé bien des problèmes, non seulement aux différents états-majors pendant la Seconde Guerre mondiale, y compris l'état-major français en 1940, qu'à Goliath, par exemple, qui sous-estima fâcheusement la puissance réelle du petit berger, David. Vous avez entendu que Samuel avait déjà sous-estimé David au moment de le oindre comme futur Messie. Et puis ce fut le cas ensuite du roi Saül, qui ne prêta pas suffisamment attention à la valeur réelle de David, devenu chef de bande de quelques centaines de personnes qui allaient faire des coups, non pas dans le Fezzan, mais dans les hautes terres du royaume de Juda et d'Israël. L'orgueil nous empêche d'entendre les voix qui dérangent. L'orgueil nous rend aveugles également. L'orgueil nous empêche de prendre la mesure des situations et d'abord des personnes. Et l'orgueil, en théologie, est considéré comme une maladie spirituelle. La première des maladies d'ailleurs. La première chose qui est combattue par tout travail spirituel organisé par les grands maîtres de la spiritualité chrétienne, à commencer par Jean de la Croix. Mais on peut aussi penser à Ignace de Loyola, le fondateur des Jésuites, qui dira, je cite, « que chacun y réfléchisse. Il avancera dans les choses spirituelles dans la mesure où il se dépouillera de son amour propre, de sa propre volonté, de la recherche de sa propre satisfaction. Tous les mystiques commencent par ce travail sur soi qui consiste à chasser l'orgueil. Et ce travail sur l'amour propre, l'orgueil, c'est ce qui permet d'avoir une vision plus juste des choses. Et dans la perspective jésuite, d'ailleurs, c'est ce qui permet de pouvoir faire un vrai travail de discernement, ce qui est au cœur de l'activité des jésuites. Nous pouvons penser à Staline, qui s'interrogeait un peu goguenard, et avec une certaine suffisance, je présume, le pape. Combien de divisions ? Ignorant qu'un successeur de Pie XII ne serait pas tout à fait innocent dans la chute de l'empire qu'il voulait créer par orgueil. Et c'est par orgueil que Nathanaël, dans notre texte biblique, aurait pu passer à côté du Messie sans s'en rendre compte. Considérons avec dédain Nazareth, qui n'avait rien des grandes villes, que ce soit Tibériade ou que ce soit Jérusalem. Nazareth qui n'existait peut-être pas à ses yeux comme aux yeux de bien des personnes qui ne sont attirées que par la grandeur apparente, par le faste, par ce qui saute aux yeux. Mais au fond, il est impossible pour nous qui avons l'habitude de chanter aussi pendant le temps de l'Avent, pendant le temps de Noël, que le Messie vient sans apparence. Au fond, nous sommes habitués, a priori, à pouvoir reconnaître la valeur des choses et la présence de Dieu derrière des apparences souvent trompeuses. Jésus, lui, avait bien repéré Nathanaël. Ce texte nous le dit. Il l'avait vu sous un figuier, sans que Nathanaël s'en rende compte. Il avait eu ce regard pénétrant qui lui avait permis de discerner la vérité. Non pas essayer de voir si Nathanaël lui ressemblait. Cela aurait été de l'orgueil. Passer l'autre par le crible de sa propre vie, de son propre caractère, de ses propres talents. Mais discerner la vérité d'une personne ou d'une situation, y compris quand elle n'a pas un aspect familier. Jésus ne s'est jamais arrêté sous un figuier, mais il sait reconnaître celui qui, sous le figuier, symbole de la parole de Dieu, médite cette parole pour ne pas rester sur son quant à soi. Il a su repérer un Israélite sous le figuier, image de l'homme qui se place sous la parole de Dieu, de l'homme au contact de l'Éternel, comme l'avait indiqué le prophète Zacharie dans le texte que nous avons lu la semaine dernière. L'humilité, c'est ce qui nous permet de ne pas tout examiner à travers notre propre vie, à travers nos habitudes, à travers nos choix de vie. L'humilité, c'est ce qui nous permet de repérer la vérité chez autrui, même sous des formes inédites et parfois assez improbables. C'est l'humilité qui aurait permis de repérer chez ce jeune chef de guerre, passé de capitaine à général en 3 ans, excusez du peu, non sans raison, repérer chez lui une menace terrible pour les forces de l'Axe. Songez, Leclerc, avec quelques centaines d'hommes, des véhicules d'un autre temps, qui ne pesait donc pas lourd aux côtés des unités commandées par Montgomery ou par la puissance américaine, eh bien ce Leclerc-là va reprendre avec sa bande de gueux 500 000 km² par saut de puce successif. Rommel, qui ne s'en tenait pas à sa seule grille de lecture, pouvait avoir repéré que Leclerc n'agissait pas comme les autres, qu'il était imprévisible, que ces hommes, en petit nombre, mal équipés, étaient de féroces guerriers avec cette volonté farouche de défendre une patrie que d'autres avaient préféré brader à l'ennemi. Là où les forces de l'Axe progressaient de 80 à 100 km par jour, la colonne Leclerc progressait de 300 km par nuit. Le genre de détail qui fait évidemment la différence quand on y prête attention. Mais pour repérer les détails, il faut être humble, c'est-à-dire observer les faits pour eux-mêmes et non pas en fonction de ce que nous connaissons déjà ou pire, de ce qui nous arrange. Certainement, le Messie ne ressemblait-il pas à l'image que beaucoup avaient en tête. Et certainement, dans cette uchronie qu'il est toujours facile de faire en christianisme, si aujourd'hui nous rencontrions le Messie, il est fort probable que nous serions plutôt du côté de Nathanaël que de Philippe, à ne pas le reconnaître, pensant que le Messie ne peut pas ressembler à ça. Plutôt que faire les mêmes erreurs que les généraux de l'Axe, considérons donc les gens par-delà les apparences, par-delà les signes extérieurs de richesse qui sont si souvent, en fait, des trompe-couillons. Même Samuel, le prophète Samuel, le bon prophète Samuel, le jour où il voulut oindre roi, enfin Messie, le jeune David, Il n'eut pas l'humilité suffisante pour reconnaître dans le plus petit, le plus dissemblable aussi, le Messie qui convenait aux yeux de Dieu. C'est par l'humilité que l'apôtre Paul refusa de se prévaloir des visions extraordinaires dont il avait bénéficié. Précisément, il avait bénéficié de visions, il les avait reçues, il ne les avait pas construites, il ne les avait pas cherchées. Il refusa le rapport de force mal placé avec les super apôtres qui sévissaient à Corinthe et qui considéraient que Paul n'était qu'un avorton. Ouais, ce n'était qu'un avorton. Et en ce sens, c'était ce qui lui permettait d'être vraiment agent de la grâce de Dieu. Car il ne s'en tenait pas qu'à sa seule force, à son seul charisme. Il était témoin de la grandeur de Dieu. Et donc, il refusa de participer au concours de celui qui aurait la plus grosse expérience spirituelle à faire valoir. Car ce n'est pas de lui dont il était question, mais de l'Évangile, du Christ, de Dieu dans notre vie quotidienne. Ce qui est quand même infiniment plus intéressant que notre petite personne gonflée d'elle-même. C'est en ayant réglé ses problèmes personnels, grâce à Dieu, qui lui planta une écharde dans la chair, qui le fit souffleter par l'ange de l'accusateur, dont on avait dit la semaine dernière qu'il ne fallait pas se méprendre à son compte, c'est le procureur, c'est celui qui dit la vérité, mais pas toute la vérité. Et justement, la grâce de Dieu est intervenue aussi pour l'apôtre Paul, en disant qu'il était plus grand, grâce à la providence divine, que tout ce qu'il pouvait écrire dans ses lettres, tout ce qu'il pouvait dire dans ses prédications. Ainsi, l'apôtre Paul put entrer dans une véritable relation interpersonnelle avec ses interlocuteurs, avec les gens de Corinthe. Il ne les prit pas de haut. Il les fit monter à la hauteur de Dieu. La personne humble est celle qui ne ramène pas sa science à tout bout de champ. C'est celle qui n'interrompt pas les autres à tout bout de champ. C'est celle qui ne sait pas ce qu'elle va répondre à celui qui me parle avant que l'autre ait fini de parler. C'est celle qui ne dit pas immédiatement ce qui lui est arrivé dans des circonstances analogues à ce que l'autre vient de dire, façon de neutraliser ce que l'autre a dit par son expérience, qui est toujours plus intéressante que celle des autres, dans l'esprit de celui qui est orgueilleux. La personne humble est celle qui ne coupe pas la parole pour asséner sa vérité à la place de ce que l'autre est en train de lui offrir en partage, humblement. L'humilité dont fit preuve l'apôtre Paul, c'est ce qui lui permit d'être plus grand que lui-même, sans avoir besoin de marcher sur les autres pour exister, sans avoir besoin d'être ce nain juché sur des épaules de géant. C'est en étant lui, à rien que lui, pas plus, que l'apôtre Paul a pu accueillir la grâce de Dieu et accomplir ce qu'il n'aurait pas réussi à accomplir autrement. Et au fond, souvenons-nous, et là j'ouvre une petite parenthèse, publicité gratuite, nous parlerons du parcours de l'apôtre Paul dans l'étude biblique qui nous conduira toute l'année prochaine, le mardi de 10h30 à 11h30, à travers les Actes des Apôtres. Vous voyez, c'est vraiment une publicité gratuite, ici même, à la tribune du Temple. Étude biblique sur Paul notamment, qui était au départ un lapidateur de chrétiens. Il va prendre un grand plaisir à lapider Étienne et à persécuter de façon générale cette secte juive. Eh bien, c'est celui qui deviendra le premier des apôtres, par humilité, par cette expérience spirituelle sur le chemin de Damas, un peu plus au nord du Fezzan. L'humilité, c'est ce qui nous permet d'accueillir la puissance que Dieu nous offre et c'est ce qui nous permet de changer, de devenir humain, plus humain. Pensons à Leclerc, c'est-à-dire Philippe de Haute-Cloque, membre de l'aristocratie picarde, qui épousa une Versaillaise c'est dire le pédigré. Il aurait pu être orgueilleux, vivre sur son compte à soi. Et au fond, c'est ainsi qu'il se lança dans la carrière. Mais il était aussi, parce que fervent catholique, un bon lecteur de la Bible, je pense, hypothèse de ma part. Et du coup, il aura été libre, libre de son milieu d'origine, libre des conventions, libre de son statut, libre des usages de son milieu. Tout monarchiste qu'il était, il aura rompu avec sa base idéologique, lui qui était maurrassien. Il continuera à lire l'Action française, mais l'expérience qu'il fera tout au long de son chemin en Afrique lui fera porter un regard bien différent de ce qu'il était autrefois, sur ceux qui n'avaient pas la même couleur que lui, par exemple, sur ceux qui ne partageaient pas ses options politiques, par exemple. Et c'est au nom d'un intérêt infiniment supérieur à son bien-être personnel, à son inclination familiale, et à ce qui aurait pu être une carrière militaire faite d'honneur facile, qu'il rejoindra Charles de Gaulle à Londres dès le mois de juillet 40, vous le savez, peu de temps après l'armistice signé par un autre Philippe, décidément, Pétain de son nom. C'est au nom de cet intérêt supérieur qu'il sera déchu de sa nationalité et condamné à mort par Vichy le 11 octobre 1941. Je pense que cela ne lui aura pas causé un chagrin excessif, lui qui fut insoumis à une hiérarchie militaire et qui considéra que tous les ordres devaient être transcendés par l'intelligence des situations. « Tout ce que j'ai fait de grand, dit-il, je le cite, je l'ai fait en désobéissant à des ordres iniques, injustes, marqués du coin de l'orgueil. » Il indique par là qu'il y a une loi au-dessus de la loi des hommes. Et pour le reste, on sait ce qu'il pensait de l'esprit de défaite, on sait ce qu'il pensait des gens à l'esprit étroit, par ce petit slogan qui était peint sur certains des véhicules qui formèrent ensuite la 2e division blindée. L'apôtre Paul explique dans cette lettre aux Corinthiens comment il a réussi son entreprise d'évangélisation. En ne s'en tenant pas à ses seules forces, mais en recevant de Dieu ce qui lui était nécessaire pour accomplir sa vocation et en changeant chez lui ce qui devait l'être. Une ambition, un courage de faire face à l'adversité, la foi qui nous permet de garder le cap de notre espérance contre toute espérance. À la libération de Paris, quand il fut interrogé sur la présence de républicains espagnols, c'est-à-dire des communistes, Leclerc expliqua que la richesse naît de la diversité. Une diversité qui a été la force de ces Tchadiens qui formeront le régiment de marche, ce qui n'était pas du goût des officiers supérieurs américains à l'époque, nous le savons. Quand je me reconnais faible comme un être pécheur et que j'accepte alors l'aide de Dieu, le soutien des frères et des sœurs, cette nourriture extérieure à moi, celle qui est d'ailleurs symbolisée dans le sacrement de la scène, c'est alors que je suis fort. C'est alors que j'accomplis ma vocation. C'est alors que je remporte les batailles de la vie. C'est alors que je découvre que la véritable grandeur ne consiste pas à dominer les autres, mais à leur faire une place. L'humilité n'est pas une diminution de soi. Elle est la liberté de n'être plus prisonnier de soi-même. Elle ouvre nos yeux à ce que Dieu accomplit là où personne ne regarde, chez celles et ceux que beaucoup négligent et jusque dans nos propres fragilités. C'est pourquoi l'apôtre Paul peut dire « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort ». Non parce que la faiblesse serait une qualité en elle-même, mais parce que la faiblesse devient l'espace où la grâce de Dieu peut enfin déployer toute sa puissance. Alors, comme Nathanaël, nous découvrons que Dieu nous attendait déjà. Comme Paul, nous apprenons à vivre de sa grâce. Et comme tant d'hommes et de femmes avant nous, nous comprenons que les plus grands trésors de Dieu se cachent souvent dans ce qui semblait si petit. Amen.